nous devons bien saisir que parler de la philosophie, de la personne, c'est tout à fait différent de la découverte de la substance et de l'acte. Ce n'est pas un troisième principe. La personne n'est pas un principe. C'est une manière d'agir qui est propre à l'esprit. Alors, une manière d'agir, c'est toujours très difficile à bien préciser. Surtout que cette manière d'agir, qui est une personne, est complexe. Elle implique des éléments très divers. Et tous ces éléments très divers doivent être en acte. D'une certaine façon, il transforme notre regard sur la substance, il transforme notre regard sur l'acte, parce qu'il regarde la substance et l'acte, non pas du côté de leur spécification, mais de leur exercice. C'est ça la très grosse difficulté. Et c'est pour ça que les scolastiques ont été impuissants de faire une métaphysique de la personne. Alors, quand je dis impuissant de faire une métaphysique de la personne, c'est qu'on ne peut pas faire de métaphysique de la personne. On peut essayer de saisir les éléments nécessaires pour que la personne existe. Vous voyez, il y aurait un raisonnement analogue à voir le monde physique. Quand j'ai fait l'analyse du monde physique, je vois les éléments, terre, eau, air, feu. Ce sont des éléments. Ce ne sont pas des principes au sens rigoureux. C'est des éléments fondamentaux de la nature. Et je vois le mouvement naturel. Le mouvement naturel a des qualités et des défauts tout à fait significatifs, puisque le mouvement naturel est déterminé par le point de vue de la forme. Chacun des éléments a une forme. Ce n'est pas l'eau qui est la forme unique. La potentialité implique de la terre, de la cause matérielle, implique des virtualités. Vous n'avez pas jamais la cause matérielle à l'état pur. Jamais. Vous n'avez pas la cause formelle à l'état pur lorsqu'il s'agit de la phusis. Et l'ensemble fait la nature. la nature matière, la nature forme, la nature efficiente, la nature finale. Or, ça me permet de saisir ce que c'est que l'être physique. Tu vois, ce que c'est que la réalité physique, la phusis. Parallèlement à la phusis, il y a la personne. La personne est une phusis très particulière. C'est une phusis qui fait éclater la nature pour montrer quelque chose de tout à fait spécial, ce qu'est l'esprit. La personne, c'est l'esprit, hein. Une personne où il n'y a pas l'esprit, vous voyez, à la place de l'esprit, la plupart du temps, c'est changé en dialectique dans le monde moderne. C'est plus l'esprit. Et c'est parce que c'est plus l'esprit qu'on abandonne l'âme. On dit que ça n'existe pas. Si on avait le sens que la personne implique l'esprit, on poserait nécessairement l'âme. L'âme est le principe formel de la personne. C'est le principe formel. Mais la personne, c'est pas l'âme. C'est l'âme et le corps. Or, l'âme et le corps, c'est pas un nouveau principe qui jaillit du fait que l'âme est dans le corps. Ce n'est pas un principe nouveau. C'est une manière d'exister différente. La forme physique se développe toujours à l'intérieur d'une matière. La personne humaine, c'est l'esprit qui se développe par elle-même dans ce qu'elle a de particulier et qui est capable d'assumer le corps de sorte que la personne implique tous ces éléments, mais en exercice. La personne, c'est une étude spéciale de l'activité spirituelle, de l'activité d'une réalité spirituelle. Quand la réalité spirituelle disparaît, comme maintenant, quand on va regarder ce que c'est que la personne, on revient à l'individu. C'est-à-dire au corps individuel. Le corps individuel n'est pas la personne. Mais la personne assume le corps individuel. C'est pour ça que la personne comme telle, au point de vue philosophique, c'est étudier une manière d'exister. Une manière d'être, le pos, le comment, spécial d'un esprit lié à la matière. Un esprit lié à la matière a une manière d'être qui n'est ni purement spirituelle, ni purement matérielle. Si vous agissez d'une façon purement matérielle, vous n'atteignez pas la personne. Si vous enseignez d'un point de vue purement spirituel, sans le point de vue du corps, vous n'atteignez pas la personne. C'est ça la complexité. Et c'est devant cette complexité que la scolastique, ne cherchant que les principes, ne regardant peu la manière d'exister, ne sait pas ce que c'est que la personne. La philosophie moderne, ayant abandonné la découverte des principes, substance et acte, se trouve en face d'une manière propre d'agir, l'action personnelle. Alors, l'action personnelle est-elle tout le temps morale? Alors, on verrait comment la personne ne peut être étudiée qu'en éthique. En éthique, j'étudie pas mal de choses de la personne. Mais est-ce que l'étude de l'éthique, c'est l'étude de la personne? Est-ce que l'étude de la politique, c'est l'étude de la personne? Et il faut vous poser la question. Parce que c'est justement ça qui nous fait comprendre qu'il y a une étude métaphysique propre de la personne. Pourquoi? Parce que c'est l'exercice des principes qui ne sont saisis qu'en métaphysique. Le point de vue de la substance, le point de vue de la finalité. Si je n'ai pas saisi cela en métaphysique, je ne peux pas comprendre ce qu'il y a de propre à la personne. La manière propre d'agir d'une personne, de cet être que je considère comme une personne, la manière propre d'agir d'une réalité qui est à la fois dans le monde physique et qui dépasse le monde physique, qui a sa finalité propre et qui, cependant, cette finalité propre, je l'atteins en me servant de mon corps. Et en me servant de mon corps, elle doit garder son sens, le sens de sa finalité. Si elle ne garde plus le sens de sa finalité, je retombe dans la phusis. Aujourd'hui, en biologie, si on veut étudier le corps de l'homme, sans regarder son âme, je regarde la phusis, tout simplement. Et donc, tout est matériel. Qu'est-ce qui distingue l'activité de la vache et mon activité? Mon activité humaine. Je peux étudier très bien l'activité de l'homme comparativement à l'activité de la vache. Mais en faisant ça, je n'étudie ni l'activité propre de la vache, ni celle de l'homme. Je regarde ce qu'il y a de commun entre la vache et l'homme. C'est que tous les deux ont des corps. différence de poids. Donc le système sanguin n'est pas le même. J'étudie en philosophie ce qu'il y a de propre à l'activité humaine. C'est ça la personne. Activité, ce qu'il y a de propre. Et l'activité humaine est complexe, elle n'est pas simple. Elle est complexe, l'activité humaine. Si j'ai mon corps malade, mon activité humaine baisse d'un cran. Si j'ai mon corps qui vieillit, l'activité humaine baisse d'un cran. Il y a un moment où il y a l'acmé, où l'activité humaine n'est pas gênée, n'est pas limitée, du moins, ne se fait pas sentir comme limitée par le corps. Il y a une harmonie parfaite. Et cette harmonie parfaite entre le corps et l'âme, tout de suite, dès qu'il y a maladie, l'harmonie disparaît. La maladie, c'est un désordre, plus ou moins profond. Ça peut être un désordre qui n'atteint que mon corps, ou ça peut être un désordre qui est beaucoup plus profondément atteint jusque mon activité morale. Vous ne pouvez pas exiger d'un malade ce que vous exigez d'un homme bien portant. Ce serait une grave faute. Vous ne pouvez pas exiger d'un enfant, d'un adolescent, ce que vous pouvez exiger d'un homme mûr. Donc, mon corps joue constamment dans ce que représente ma personne. Je ne peux pas dire oh, pour chacun d'entre nous, il y a eu un acmé. Un acmé, c'est un sommet où le corps était particulièrement docile à l'âme ou particulièrement en révolte de l'âme. Ouais. Il y a le révolutionnaire qui est né révolutionnaire et qui sera révolutionnaire toute sa vie. Et il y a un moment où le révolutionnaire est révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que d'être révolutionnaire ? C'est de sentir en nous l'opposition de la nature et de la personne. La nature, elle dépend de toute une manière de vivre qui était celle de mes ancêtres. Ça, c'est ma nature, je porte ça en moi. Quant à ma personne, elle vient de moi. Oui, elle dépend, elle aussi, de toute chose, mais de ce qu'elle a de propre, c'est moi. Et j'en suis responsable. Alors, ou j'assume ma nature, ou ma nature est en opposition avec ce qu'il y a de personnel en moi. Il faut que nous sentions ça dans notre propre vie. Donc, découvrir ce qu'est la personne, c'est capital. Mais vous découvrez la personne quand vous avez 25 ans, quand vous avez 35 ans, quand vous avez 45, et ainsi de suite. c'est toujours la même personne. Mais c'est la même personne envisagée, engagée dans un contexte totalement différent. Ce contexte se fait ressentir directement dans mon corps. Directement. Ce contexte se fait ressentir dans mon activité artistique. Ce contexte se fait sentir dans mon activité politique, prudentielle. Mais l'essentiel reste le même. Mon corps est essentiellement le corps du tout petit enfant. Il a peut-être changé complètement, mais son équilibre, il y a une unité. C'est très très curieux. Donc la personne est victorieuse de l'évolution. Elle sait qu'il y a cette évolution. Elle sait qu'il y a ces changements. Elle sait qu'elle passe à travers tout ça. Elle est victorieuse. Sauf, évidemment, quand il y a eu révolution. Dans ma vie, je peux dire, par exemple, qu'à 20 ans ou à 35 ans, quand je suis entré en vie religieuse, il y a eu une révolution par rapport à ma personne. Parce que l'équilibre de vie est totalement différent. Vous voyez l'équilibre de vie que vous aviez avant d'entrer, équilibre de vie que vous essayez d'avoir au noviciat. Et c'est la même personne. Alors, comment ça se fait? Et je dis c'est la même personne parce qu'il y a la même finalité. S'il y avait une finalité différente, c'est-à-dire une conversion complète, je dirais, ah, il y a eu une conversion dans ma vie. Ça a changé complètement. Et je sais, j'ai changé d'attitude. Et ça s'est répercuté au point de vue politique, ça s'est répercuté dans ma prudence, ça s'est répercuté dans mon travail. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement difficile de saisir la personne. Parce que c'est complexe. C'est le pos, le comment de ma vie propre, d'homme. La vache a l'avantage qu'elle n'a pas ce problème-là. On ne parle pas de personne. On parle de personne. Quand l'esprit me donne une nouvelle finalité. Parce que biologiquement, mon corps peut être très semblable, analogie de similitude, avec le corps d'un petit cochon, puisque c'est le corps du porc, qui est le plus proche du corps de l'homme. Et permission, par le fait même, de faire des greffes du cœur. J'ai plus le cœur d'un homme, j'ai le cœur d'un animal. Mais si matériellement c'est le cœur d'un animal, au point de vue de la finalité, ça n'a pas changé. C'est très curieux, ça. À quel moment ma finalité change? Quand il y a conversion, transformation. transformation qui va jusque-là. Alors, à ce moment-là, au point de vue de ma personne, c'est radicalement différent. Ce n'est plus la même personne. Et vous direz à vos amis, ce n'est plus la même personne. J'ai compris qu'il fallait complètement changer ma vie. Tous ces éléments-là jouent au point de personne. Alors, si je veux situer exactement ce que c'est que la personne, j'étudie le comment de mon existence. Mon existence se déroule dans un devenir, et ce devenir est humain, ou ce désir n'est, ou ce devenir n'est pas humain. Quand quelqu'un continue de jouer toute sa vie, à droite, à gauche, selon les événements, il n'a pas découvert sa finalité. Alors, en présence de quelqu'un qui a de très grandes richesses, mais qui ne sait pas les utiliser, parce que il n'y a pas d'unité dans sa vie. La personne, à travers cette complexité humaine, a une unité qui vient de la finalité. Qu'est-ce qui unifie ma vie? Qu'est-ce qui unifie ma vie? C'est la finalité. Finalité, la recherche de la vérité. La recherche de la vérité. Je n'ai pas encore découvert l'existence de Dieu. Donc c'est la recherche de la vérité. Avant la découverte de Dieu, il y a la recherche de la vérité. Quelqu'un qui ne recherche absolument pas la vérité, peut-il découvrir Dieu ? Quelqu'un qui ne recherche absolument pas la vérité. Il est comme une petite guêpe qui vient chercher dans toutes les fleurs un peu de sucre, tout. À droite, à gauche. Elle fait son miel. Mais immanent. Sans aucune unité extérieure. Y a-t-il une personne, quand vous êtes en présence de quelqu'un, où il n'y a aucune unité? Vous vous direz, cette personne, elle est très riche, elle a des capacités qui sont très belles, très grandes. Tout ce qu'on lui demande, elle est capable de le faire, et de le faire très bien, mais elle est incapable de se diriger elle-même, incapable de maintenir dans sa vie une unité. Elle se laisse prendre par toutes les choses, de droite et de gauche. Mais la personne, dans sa formation, implique qu'il y ait d'une finalité qui fait l'unité, qui réalise l'unité en elle, l'unité vitale. Mais ce choix d'une finalité s'est manifesté peut-être très tard. Chez certaines personnes, c'est très tôt. Chez d'autres personnes, c'est très tard. Mais au fond, la personne nous pointe son caractère de personne que lorsqu'il y a ce choix d'une certaine finalité. qui unifie tout. Autrement, il y a un animal à mille pattes. Toujours dérangé à droite ou à gauche. Il n'y a pas aucune unité. L'unité est capable d'unir la très grande diversité de capacités que j'ai en moi dans l'action. Mes capacités sont très grandes, elles sont d'ordre physique. Elles sont d'ordre moral, elles sont d'ordre esthétique, elles sont d'ordre métaphysique. Vous voyez, c'est pour ça que la personne doit être traitée en métaphysique. Mais en métaphysique, je ne traite pas de toute la personne, je vois l'unité et la complexité. Une unité dans la complexité. Et cette complexité est variable, et par le fait même, l'unité est très différente. Mais la personne, ce n'est pas saisir un nouveau principe. Ce serait une erreur. Il n'y a pas un nouveau principe. La personne, c'est une manière de vivre. Ah. Alors, tirez, donc, au fond, la personne devrait être étudiée en philosophie du vivant. Une manière différente de vivre. C'est vrai que la philosophie du vivant doit s'intéresser directement à la personne. D'où on comprend comment la psychologie a une place très intéressante pour l'étude de la personne. Mais est-ce que c'est cela qui me fait comprendre véritablement ce que la personne ? Non. Parce que il y a en moi l'esprit, l'intelligence et la l'intelligence et l'amour sont capables de découvrir ce qui est. Et la personne ne peut absolument pas négliger cela. Parce que ma finalité, ce n'est pas quelque chose d'immanent en moi, c'est atteindre le bien, le bon, qui est au-delà de moi. Et mon intelligence veut savoir ce qu'est la réalité. La métaphysique existe. Si la métaphysique ne s'occupe pas de la personne, elle est dominée par la psychologie. Et ce n'est plus la métaphysique. Au fond, la métaphysique disparaît si on considère la personne au niveau psychologique. Et c'est ce qui arrive. La personne aujourd'hui est considéré avant tout au point de vue psychologique. La psychologie a pris une place très très grande. bonne, intéressante, mais dangereuse. Parce que quand c'est la psychologie qui domine, vous n'avez plus de finalité. La finalité de l'homme est au-delà de l'homme. C'est ça qui est terrible. Ma finalité n'est pas en moi. Et donc la psychologie qui étudie uniquement ce qui est en moi n'atteindra jamais ma finalité. Et donc je me construis comme quelqu'un qui cherche en lui-même sa propre fin. Et il n'y a rien de plus dangereux que ça. Parce que si vous cherchez votre fin en vous-même, le prochain n'a plus aucun intérêt, si ce n'est utilitaire. C'est vous. Si vous arrivez à découvrir au contraire que l'intelligence, c'est la découverte de l'autre, de ce qui est autre que moi, alors à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que il existe vraiment une réalité autre que moi? Ou est-ce qu'au contraire, chercher une réalité autre que moi, c'est une perte de temps. N'existe que ce qui est en moi, ce qui est de moi. Seule chose qui existe. Et donc, je ne peux pas mettre la psychologie comme ce qui doit me faire comprendre ce qu'est ma personne, parce que ma personne, elle ne se développe que grâce à l'amour. Et l'amour me fait découvrir l'autre, le bien. Ça, que la métaphysique nécessairement se pose le problème de l'existence d'un être premier. La métaphysique me pose nécessairement ce problème-là. Dans quelle mesure je peux l'atteindre, mais ma finalité n'est pas en moi. Le problème de la personne me montre que ma finalité n'est pas en moi. J'ai peut-être cherché la finalité en moi pendant de nombreuses années, quand j'étais gosse, c'est possible, c'est plus simple. Et je m'aperçois au bout d'un certain temps que ma finalité ne peut exister que au-delà de moi. Et c'est pour ça que c'est l'amour qui me pose la question avec la plus grande acuité, existe-t-il un être au-delà ?